This is Radio France International.
De Paris, RFI, de
$100.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde. Nous allons revenir sur les temps forts de l'actualité de la semaine avec le regard des rédactions de Radio France Internationale. Ce soir avec Laura Martel de la rédaction en anglais.
Good evening.
Pour la rédaction brésilienne, Silvano Mendes.
Boa tarde.
Et Matei Vichniec pour la rédaction roumaine.
Bună seara.
Bonsoir à vous tous. Alors dans Accent du Monde, intéressons-nous à ce qui se passe en Italie après les élections législatives. Un scrutin marqué par une percée historique des forces politiques anti-système, notamment de droite, et un net recul de la gauche, avec au bout du bout un pays qui devrait être ingouvernable. Silvano Mendes, à la rédaction brésilienne, vous vous êtes intéressé aux raisons qui ont poussé les Italiens à faire ce choix politique.
Oui, tout à fait. Surtout parce que ce résultat n'était pas vraiment une surprise et les instituts de sondage annonçaient déjà ce risque de victoire d'un vote anti-système et les raisons sont nombreuses. D'abord, il y a l'exaspération face à la stagnation économique en Italie. Parce que même si le pays est aujourd'hui la troisième puissance économique de la zone euro et que les Italiens commencent à renouer depuis l'année dernière une certaine croissance, le pays reste quand même très endetté. Et pour vous donner une idée, l'Italie cumule aujourd'hui une dette de 132% de son produit intérieur brut. Et en plus, le pays affiche des taux de chômage toujours en hausse, avec plus de 11% de la population active sans travail, contre environ 8% dans la zone euro. Donc tout cela crée une insatisfaction généralisée. Nous avons d'ailleurs interrogé à ce propos le philosophe italien Gianfranco Ferraro, chercheur à l'Université Nouvelle de Lisbonne. Pour lui, l'Italie vit son moment politique le plus faible des 20 dernières années. On l'écoute.
O que se vê é mesmo a falta completa de qualquer perspectiva.
Quelle est son analyse?
Alors Gianfranco Ferraro explique qu'il y a un manque complet de perspective dans l'avenir en Italie et que la population ne constate pas une vision économique et géopolitique claire de la part de ses dirigeants. Pour lui, comme l'Italie a toujours joué un rôle central en Europe, ce manque de vision et même de leadership est très effrayant pour la population, d'où le résultat de ces urnes dimanche dernier.
Le poids économique dans ce vote politique, Laura Martel?
Oui, chez nous, Mike Woods a parlé avec plusieurs analystes pour voir ce qui avait motivé les Italiens aussi. Donc la désillusion vis-à-vis des précédents gouvernements, les difficultés économiques bien sûr dont parlait Silvano. Mais pour Fabio Bulfone du centre de recherche Robert Schuman de Florence, eh ben, autant dans le sud du pays, le mouvement 5 étoiles doit surtout son succès à ses difficultés économiques, à l'espoir des citoyens de voir plus d'interventionnisme générer de l'emploi, autant à l'échelle nationale, il explique la percée du mouvement par une volonté de renouveau.
There is also a dissatisfaction for politics in general, and that has to do.
Donc il dit qu'il y a un sentiment de mécontentement vis-à-vis de la scène politique en général, que l'ensemble de la classe politique est perçue comme manquant de légitimité, et donc qu'au niveau national, le mouvement 5 étoiles a incarné ce rejet des figures politiques traditionnelles. Une analyse que partage un Roberto d'Altimonte, un politologue à l'université Louis de Rome, qui souligne que les Italiens ont soif de voir de nouvelles têtes au pouvoir. Et que les thèmes de campagne de 5 étoiles, qui s'est présenté comme un mouvement anticorruption, un mouvement anti-système, ni vraiment de droite, ni vraiment de gauche, finalement, ont séduit.
Et puis, il y a le côté anti-Europe. C'est une valeur partagée à la fois par le mouvement 5 étoiles et par la Lega.
Oui, alors, mais pour Roberto d'Altimonte, il faut rester prudent sur le poids de ce soi-disant euroscepticisme dans la percée de ces deux partis. On l'écoute. Il dit que c'est une première en Italie, mais que finalement, ni le mouvement 5 étoiles, ni la Liga n'ont fait de l'euro ou de l'euroscepticisme un thème majeur de campagne. Et donc, il faut être très prudent autour de cette notion d'une montée de l'euroscepticisme.
Silvano Mendes, la question de l'immigration a également été un thème central de la campagne électorale et bien sûr a guidé le vote des Italiens dimanche dernier.
Oui, c'est peut-être l'une des principales raisons de ces désaveux des électeurs italiens face à sa classe politique et aussi à l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que comme chaque État membre doit être responsable des demandes d'asile, les migrants qui arrivent sur les côtes italiennes doivent faire leurs demandes d'asile, bien évidemment, en Italie. Du coup, les Italiens ont l'impression que cette politique les laisse seuls devant le problème et que le fonctionnement actuel de l'Union européenne serait défavorable aux pays méditerranéens comme l'Italie, mais aussi la Grèce. Et l'arrivée des 700 000 migrants depuis 2013 en Italie a nourri le discours protectionniste et nationaliste des partis comme la Ligue du Nord.
Alors justement, la nouvelle donne électorale en Italie a une résonance particulière en raison de cette question migratoire en ce qui concerne certains pays de l'Europe centrale et de l'Est, Matej Wiśniak.
Oui, je pense qu'il faut arrêter maintenant de dire que la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque sont en quelque sorte les mauvais élèves de la classe. C'est vrai que ces pays refusent l'immigration et les quotas imposés, ou plutôt proposés par Bruxelles. C'est vrai aussi que ces pays sont réticents par rapport au multiculturalisme. C'est vrai aussi que dans ces pays se développe la doctrine de la démocratie illibérale. Mais en ce moment, entre l'électorat de l'Europe de l'Est et celui de l'Europe de l'Ouest, la fracture est moins profonde. La preuve, le Brexit. Le fait qu'une centaine de députés d'extrême droite sont entrés à la fin de l'année passée dans le Parlement allemand, et maintenant les élections italiennes, j'ajoute ici la Catalogne, il y a une angoisse identitaire qui devient commune à l'Est et à l'Ouest. Par ailleurs, il y aura une conséquence du vote italien dans les Balkans. Je pense que les 5 pays des Balkans qui frappent à la porte de l'Union européenne risquent, dans le nouveau contexte, d'attendre encore plus longtemps l'intégration.
Votre analyse également, Matej, sur ce dont on parlait avec Laurent Martel tout à l'heure, c'est-à-dire l'antiscepticisme côté italien. Quelles leçons pour l'Europe ?
C'est arrivé déjà plusieurs fois. Après chaque grave échec, il y a des analystes qui disent « Et si jamais c'est une chance pour l'Europe ?» On a dit cela après la crise économique de 2008. C'est grave, mais l'Europe sortira plus forte de cette épreuve. On l'a répété après Brexit. C'est grave, mais l'Europe va se reconstruire encore plus forte, plus intégrée. Personnellement, je doute que l'Europe sortira plus forte de ce basculement anti-système en Italie. Le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, a déclaré juste après la annonce des résultats. Le vote italien est un appel pour réinventer l'Europe.
Alors combien de séismes a besoin l'Europe pour que le chantier de la reconstruction commence enfin,
vraiment ? Ben, justement, le Brexit a été un séisme. Les législatives en Autriche et en Allemagne, pareil, d'autres séismes. La seule chance maintenant, c'est la mobilisation franco-allemande. À Berlin, il y a enfin une coalition et Emmanuel Macron est devenu en ce moment le seul leader en Europe qui a des fortes convictions pro-européennes et la capacité d'agir. Avec la chancelière Merkel, affaiblie quand même. Je note ce que les éditorialistes disent. Concernant l'Europe, la coalition gouvernementale à Berlin maintient un certain flou.
Alors justement, les éditorialistes, les commentateurs parlent avec de nouveaux mots, la démocratie illibérale ou encore la populocratie. De quoi s'agit-il ?
Il y a un livre qui vient de sortir en France. Un populisme à l'italienne, comprendre le mouvement 5 étoiles. L'auteur, c'est Jérémy Dussin. Les Italiens aiment apparemment l'idée de démocratie directe proposée par les 5 étoiles, mais ils aiment aussi les leaders atypiques qui rompent avec la langue du bois et avec la manière classique de faire de la politique. L'inspirateur du populisme italien est Mussolini. Et je suis sûr que Beppe Grillo, l'humoriste qui a lancé le mouvement 5 étoiles, le sait. La populocratie s'installe lorsque les élites et les partis politiques traditionnels perdent toute crédibilité. Il faut se rappeler que tout a commencé le 8 septembre 2007, quand des centaines de milliers de personnes ont participé en Italie au premier Vaffanculo Day. Ce qui en français veut dire « je suis désolé, va te faire foutre », une manière très italienne de dire « dégage ». 5 étoiles reste un mouvement difficile à placer dans une catégorie. Par exemple, elle n'est pas viscéralement opposée à l'immigration, mais son idéologie reste quand même une collection d'affirmations contradictoires, le tout et le contraire du tout. Est-ce qu'on peut diriger un pays dans ces conditions ? Voici la question hamletienne, to be or not to be, dans le pays de la commedia dell'arte.
Voilà, analyse très littéraire et très théâtrale. On sait que vous aimez beaucoup cela, Matej Wiśniak. Vous écoutez Accent du Monde sur Radio France Internationale.
Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Intéressons-nous à des sujets plus particulièrement traités par vos rédactions. Au Brésil, un général de l'armée, forcément, a pris cette semaine la tête du ministère de la Défense à la demande du président, sachant que Michel Temer a clairement annoncé une intervention militaire dans les favelas, c'est-à-dire dans les bidonvilles de Rio de Janeiro. Silvano Mendes, à la rédaction brésilienne, vous suivez de très près ce sujet, jour après jour.
Oui, parce que c'est la première fois depuis le retour de la démocratie au Brésil en 1985 qu'un militaire devient ministre de la Défense. Et il n'est pas le seul. Au sein de la Casa Civil, l'équivalent du bureau du Premier ministre, le directeur de cabinet est aussi un militaire. L'armée dirige également en ce moment les services de renseignement, ce qui est un peu plus logique, mais aussi la FUNAI, la Fondation Nationale pour la Protection des Indigènes. C'est une situation qui interpelle notamment ceux qui ont connu les dérives de la présence des militaires dans les postes clés du pays pendant les plus de 20 ans de dictature.
Alors pourquoi pareille décision qui, au-delà, pose la question du retour des militaires dans la vie politique brésilienne ?
Eh bien, le gouvernement actuel défend que la police est dépassée et que face à la violence, notamment dans les favelas, les bidonvilles de Rio de Janeiro, mais aussi un peu partout dans le Brésil, l'armée était la seule solution. Il faut dire que depuis la destitution de la présidente Dilma Rousseff en 2016 et la prise de pouvoir par son vice-président Michel Temer, on voit de plus en plus la présence des militaires dans plusieurs secteurs de la société. À la moindre manifestation dans les rues, les militaires peuvent aussi être sollicités pour aider les forces de l'ordre, ce qui n'était pas toujours le cas par le passé. Mais ce phénomène est plus visible, surtout depuis le mois de février dernier, quand le président Temer a signé un décret dans lequel il transférait à l'armée le commandement des opérations contre le crime organisé, notamment le trafic de drogue dans les quartiers pauvres de Rio de Janeiro. D'ailleurs, cette semaine même, les forces de sécurité brésiliennes ont lancé une autre opération menée par des militaires dans un quartier pauvre de Rio. C'est la troisième opération de ce genre lancée depuis la mi-février.
Comment est-ce que réagissent les Brésiliens ou les cariocas, c'est-à-dire les habitants de Rio?
Il faut dire qu'il y a une partie de la population qui défend ce genre d'opération, notamment ceux qui n'ont pas connu la dictature militaire, mais en général, cette intervention de l'armée dans les quartiers pauvres de Rio est très critiquée par les défenseurs des droits de l'homme. La crainte des ONG est que la population des favelas soit victime des abus des militaires lors de ces opérations coup de poing. Même les Nations Unies se sont exprimées. Cette semaine, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a manifesté son inquiétude face à la décision controversée du gouvernement brésilien de confier à l'armée le commandement des forces de sécurité de l'État de Rio de Janeiro. Mais ce qui est très préoccupant, et d'ailleurs le correspondant des RFI sur place l'a bien signalé cette semaine, c'est que jamais l'armée brésilienne n'avait eu une telle influence depuis les années 80 au Brésil. Juste pour finir, je rappelle que l'un des candidats pour l'élection présidentielle qui aura lieu au mois d'octobre est un ancien militaire d'extrême droite, très favorable à l'intervention de l'armée au Brésil. Il apparaît en deuxième sur les sondages, derrière seulement l'ex-président Lula. Lula, commencé, est condamné par la justice et qui risque de ne pas pouvoir se présenter. Donc, l'intervention militaire au Brésil a de fortes chances d'être l'un des thèmes de la campagne présidentielle.
Bien évidemment, et que vous suivez tout cela avec beaucoup d'attention, Silvano Mendes, de la rédaction brésilienne de RFI. Un des événements particulièrement suivis cette semaine par le service anglais, ce sont les élections générales en Sierra Leone, Laura Martel.
Oui, Laura Angela Bagnetto était pour nous à Freetown. Alors, plus de 3 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes mercredi pour des élections présidentielles, législatives, locales. Alors, pour ce qui est de la présidentielle, le président Koroma, après 2 mandats, ne pouvait plus se représenter. Pour lui succéder, 16 candidats en lice, 3 favoris. D'abord, Samora Camara, un ministre des Affaires étrangères, candidat de l'APC, parti au pouvoir, et donc avantage, car derrière lui, le plus gros parti du pays. Inconvénient aussi, car dauphin désigné du président sortant, il est donc potentiellement perçu comme son homme de paille.
Autre candidat, Julius Maada Bio, qui représente le principal parti d'opposition qu'est le SLPP.
Oui, c'est un ex-chef d'une junte militaire qui avait dirigé le pays quelques mois en 96 avant de passer la main aux civils. Son nom reste donc associé au retour de la démocratie. Son objectif, lui, était de tirer parti du mécontentement économique, social qui a marqué le second mandat de Koroma et notamment dans la gestion critiquée des fonds destinés à la lutte contre Ebola.
Et le troisième homme ?
Et puis le troisième homme, Kande Yumkela, dissident du SLPP. Lui, il est assez populaire auprès des jeunes et il est vu comme comme un outsider qui pourrait changer la donne ou se transformer en faiseur de roi en cas de second tour.
Alors la commission électorale appelle à la patience car les résultats sont toujours attendus.
Oui, et même si on n'a pas encore de taux de participation officiel, Laura Angela Bagnetto a constaté que ces scrutins avaient mobilisé les électeurs, du moins dans la capitale. Il y a beaucoup d'excitation au moment où le chef du bureau situé à Jooi dans la banlieue de Freetown annonce l'ouverture du scrutin, souligne Laura Angela. Et même si une interdiction de circuler dans la capitale a compliqué les choses pour les électeurs, eh bien, ils étaient nombreux à avoir fait le déplacement, dit-elle.
Alors l'Union européenne, qui avait envoyé sur place plus de 400 observateurs, a salué le bon déroulement global de ces élections.
Oui, l'UE a donné crédit à la commission électorale d'avoir, je cite, assuré jusqu'à présent un processus électoral transparent, crédible et bien organisé. Les électeurs ont eu un véritable choix entre les partis dans un spectre politique élargi, a souligné la chef de mission, même si Jean Lambert a toutefois émis quelques réserves sur le rôle de la police.
During the wider campaign, the role of the police as an impartial force.
Alors elle explique que pendant la campagne, le comportement de la police a suscité des doutes sur son impartialité et que le jour de l'élection, ce problème a d'ailleurs été particulièrement visible quand la police a tenté de pénétrer dans les locaux du parti d'opposition, donc SLPP, juste avant la clôture du scrutin.
Et puis autre chose, l'envoyé spécial de RFI, Laura Angela, a pu s'intéresser plus particulièrement à la place des femmes sur la scène politique sierra-léonaise.
Oui, alors il y avait deux candidates à la présidentielle, sur 16 postulants, mais de manière générale, les femmes sont sous-représentées sur les listes électorales. Les Sierra-Léonaises représentent 52% de la population, mais seulement 13% des candidats toutes listes confondues. À noter que dans l'Assemblée issue des élections de 2012, il n'y avait que 15 femmes députées sur 132 élus, une proportion qui devrait rester la même cette année, et qu'une loi présentée en 2007 voulait imposer un quota de 30% de femmes, mais qu'elle avait été rejetée. Alors pour Simeti Lavallée, une avocate qui milite pour le droit des femmes, eh bien ce manque de représentation s'explique aussi par un climat politique peu propice pour s'impliquer.
Even among the educated ones, they are reluctant to go into politics because politics is dirty.
Quelle est son analyse?
Elle dit qu'en fait, que même parmi les femmes éduquées, beaucoup rechignent à entrer en politique parce que c'est un monde de coups bas, d'insultes et de violences. Elle prend notamment l'exemple d'une candidate à un conseil municipal qui a été attaquée dans sa maison, sa voiture partiellement brûlée, et donc que même les partis qui cherchent à équilibrer leur liste, eh bien, peinent parfois à trouver des candidates.
Laura Martel de la rédaction anglophone de RFI. La Roumanie est présente. En Roumanie, de plus en plus de gens se mobilisent contre la déforestation sauvage. En effet, Matei Vichniec, la forêt vierge, qui est vieille de plusieurs millénaires, est menacée.
Oui, c'est encore un drame, un scandale en Roumanie qui pousse les gens à s'organiser, à agir. Il s'agit d'une déforestation intensive, très souvent illégale. La corruption n'est pas loin de ce qui se passe dans les Carpates. Il faut dire que la Roumanie, c'est encore un paradis forestier. Plus de 6 millions de hectares, c'est-à-dire 27% du territoire. Et si vous voulez aller chasser en Roumanie, sachez qu'il y a encore 8000 ours, 4000 loups et 3000 lynx.
Alors pour sauver les forêts et leurs habitants, en Roumanie, Matei, ce qui peut fonctionner, c'est de sensibiliser l'opinion publique européenne.
Oui, parce que je crois que cette forêt vierge est aussi le patrimoine naturel de l'Europe et joue un rôle important du point de vue climatique. C'est un poumon vert de l'Europe. Si on finit par décimer la forêt roumaine, il y aura aussi des conséquences sur le réchauffement climatique. On va espérer pas très bien à Paris. Beaucoup d'associations, de journalistes, de spécialistes dénoncent l'existence d'une mafia de la forêt qui rase des montagnes entières avec une certaine complicité au sein des autorités. La législation dans ce domaine est déficitaire, le nombre de gardes forestiers insuffisant et souvent une population pauvre laisse faire pour en tirer un petit profit immédiat. On dit que depuis 20 ans, on a coupé illégalement 80 millions de mètres cubes de bois en Roumanie.
Alors pas beaucoup de gens parlent de cette déforestation, pas beaucoup de médias, la presse française entre autres. Cela dit, l'année dernière, le magazine Cash Investigation de France 2 s'était tout de même penché sur ce problème.
Oui, je dis bravo, grâce à une équipe qui a filmé dans les Carpates et à la journaliste Marie Maurice. D'ailleurs, en Roumanie aussi, il y a plusieurs enquêtes qui visent des firmes comme IKEA, le plus grand consommateur de bois commercial sur la planète, les journalistes de Cash Investigation affirment que le trafic de bois apporte dans le monde presque autant que le trafic de drogue. C'est peut-être voilà un problème international et pas seulement roumain.
Et puis c'est surtout un trafic qui rapporte cher et qui coûte peu, parce qu'il vaut mieux se faire arrêter pour trafic de bois que trafic de drogue. On pourrit moins longtemps en prison.
Oui, je pense qu'on parlait de Brésil. Il y a un problème similaire, encore plus gigantesque
aussi, ouais.
Là-bas. Mais voilà, le petit poumon vert de Roumanie aussi, il faut le défendre.
Voilà donc pour ce que l'on pouvait vous apporter ce soir avec les regards croisés des rédactions du Monde de Radio France Internationale. C'était Accent du Monde et dans quelques instants, l'essentiel de l'actualité sur RFI.